J'étais en vacances, c'était ma semaine de vacances de juillet. J'avais amené mon cheval de région parisienne et puis je faisais des balades dans la région et l'une d'entre elles m'a amené sur la plage.
J'étais en ramassage d'algues sur la baie à environ 200 mètres du lieu où c'est arrivé. Et puis, tout en faisant mon boulot, je l'avais dans la vue quelque part. Il faisait des exercices avec son cheval sur la plage. Il avait l'air de s'éclater avec son cheval, quoi. Et puis, à un moment donné, je l'ai vu se diriger vers la rivière, à pied avec son cheval derrière lui, quoi. Et puis, peut-être quoi, 2-3 minutes après, je me retourne et puis je ne le voyais plus, quoi. Et je me dis, je vais aller voir ça quand même, quoi.
Je m'approche d'un tout petit cours d'eau, vraiment un ruisseau qui s'appelle le Rosquat, hein, qui débouche sur la grève et qui la traverse. Et puis en approchant de son lit, à quelques petits mètres, tout d'un coup je m'enfonce dans une vasière qui était vraiment invisible comme ça en approchant. Donc je m'enfonce jusqu'au genou d'un coup, mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Donc il se projette dans la vasière, moi avec, puisque j'étais à côté de lui. Et ensuite, en quelques instants, il fait un arrêt respiratoire, c'est-à-dire que je le vois arrêter de respirer, planter la tête dans la vase, et j'ai juste eu le temps de crier un ramasseur d'algues qui était sur son tracteur à quelques dizaines de mètres de venir nous aider, et à partir de là, je garantis que c'est un rideau noir et que je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me sortir de là, me ranimer, me mettre dans une ambulance.
En 2009, je prends mon service aux urgences à l'hôpital et j'apprends que la veille avait été véhiculé aux urgences Monsieur Petit, donc qui avait été victime d'un accident à Saint-Michel-en-Grève, et donc il avait été apporté par le SMUR la veille, et l'hypothèse c'était le fait qu'il ait inhalé de l'eau, on ne savait pas trop, inhalé après avoir fait une convulsion. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu et qui n'avait aucune raison de faire une convulsion. Et surtout, le cheval qu'il tenait par la bride est décédé en moins d'une minute devant ses yeux, quoi.
Les algues vertes, j'en avais entendu parler. Et je croyais, comme beaucoup je pense, que le problème était surtout olfactif et visuel. Et c'est ici, dans les Côtes d'Armor, que j'ai découvert la réalité.
Donc, je lui ai dit non, moi, pour moi, votre convulsion, elle est liée au fait que vous avez été intoxiqué par les émanations des algues vertes. Et j'ai déjà été confronté à cette situation à deux reprises. Donc, il faut qu'on arrive à prouver.
Le sujet est très sensible en Bretagne, comme vous l'entendrez au cours de ces deux épisodes qui tentent de comprendre le tabou qui entoure les algues vertes. Peu de gens, y compris de Bretons, savent que les algues vertes ont tué. Tué non seulement des animaux, mais aussi des êtres humains.
Bon, dans les faits, je suis resté 20 à 30 minutes sans connaissance avec une cyanose, donc les lèvres et les extrémités des membres bleus, des convulsions qui se sont arrêtées lorsque j'étais oxygéné. J'ai passé la nuit en hospitalisation, en passant tout un tas d'examens. Et c'est le lendemain matin que le docteur Pierre Philippe, avec qui j'ai discuté, a émis l'hypothèse d'une intoxication par les gaz émis par les algues vertes en putréfaction. Ce que j'ai découvert, puisque je comprenais pas ce qui m'était arrivé, mais je ne connaissais même pas l'existence d'un gaz dangereux émis par les algues vertes.
Les algues vertes forment un piège parfait. En séchant, elles deviennent blanches sur le dessus et elles se confondent ainsi avec le sable. Mais au-dessous de cette croûte blanche, elles putréfient et développent un gaz ultra toxique, l'hydrogène sulfuré. Ce gaz est connu pour son odeur d'œuf pourri. Mais en quantité importante, on ne peut plus le détecter parce qu'il anesthésie le nerf olfactif. Ce gaz peut tuer aussi rapidement que du cyanure. C'est en tout cas ce que soupçonne l'urgentiste Pierre Philippe depuis plus de 20 ans. Mais personne dans les Côtes d'Armor n'a voulu l'écouter.
Alors, ma première prise de contact avec ce problème, ça a été en fin juin 1989. J'étais nouvellement médecin dans le service des urgences de l'hôpital de Lannion. Je venais d'arriver en poste depuis quelques mois. Et j'avais appris par la presse qu'il y avait un jogger qui n'avait pas donné signe de vie depuis 3 ou 4 jours. C'est un jeune homme de 26 ans qui était allé faire un footing sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. Et On ne l'a jamais revu, donc il a fallu 3 jours avant que son corps soit retrouvé au sein d'un amas d'algues vertes conséquent, puisqu'il faisait plus d'un mètre d'épaisseur, donc en haut de la plage de Saint-Michel-en-Grève. En tant que médecin de garde en ce temps-là, donc j'ai été plus ou moins réquisitionné pour faire l'examen du corps et savoir exactement quelle était l'origine du décès. Quand j'ai examiné le corps, effectivement, bon, il m'était absolument impossible de savoir quelle était l'origine du décès. Je ne suis pas médecin légiste, hein, mais par contre, effectivement, je n'ai pas pu faire l'examen parce que c'était irrespirable. Dès qu'ils ont ouvert la housse, c'était totalement irrespirable. Pas lié à l'état du corps, hein, lié aux émanations des algues vertes, hein, dans lesquelles il avait séjourné pendant 3 ou 4 jours. Et donc, j'avais demandé à ce qu'il y ait une autopsie de fait sur l'hôpital de Saint-Brieuc pour déterminer l'origine du décès. J'avais lu quelques articles, je me suis toujours intéressé à l'environnement et au milieu maritime. Je suspectais qu'effectivement il puisse y avoir une origine entre les émanations de gaz émises par les algues en putréfaction et la santé. C'était donc en juin, début juillet 1989. Donc il y avait eu une autopsie dont je n'ai jamais eu le résultat de l'autopsie.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, même 20 ans plus tard, j'ai demandé le résultat de cette autopsie, je n'ai jamais réussi à l'obtenir. Que ce soit après plusieurs demandes auprès des procureurs de la République, auprès de différentes instances, ça a été une fin de non-recevoir. Je n'ai jamais réussi à l'obtenir. Et il se trouve qu'en 1999, donc 10 ans plus tard, il y a un monsieur qui ramassait des algues vertes pour l'entreprise qui collectait les algues au même endroit où le jogger a été retrouvé, parce qu'effectivement c'est une pollution essentiellement, c'était considéré comme essentiellement visuel en ce temps-là. Et donc il ramassait dans une chargeuse donc ces algues vertes à longueur de journée pendant toute la saison estivale. Et donc notre SMUR a été appelé parce qu'il a perdu connaissance au volant de son tracteur en fin de journée. C'était quelqu'un qui avait remarqué que son tracteur filait vers la mer au lieu de façon anormale, donc qui est arrivé, qu'il a trouvé inconscient dans l'habitacle de son tracteur. Il a fait un état de mal convulsif, c'est-à-dire des convulsions qui se répètent avec un coma. Donc il a dû être mis sous assistance respiratoire, il a dû être intubé, enfin en situation d'extrême urgence, quoi. Donc il a été amené aux urgences de l'hôpital de Lannion, il y a eu les premiers examens, scanners, il y a eu des tas d'examens, et vu son état sérieux, il a été transféré à Saint-Brieuc, en service de réanimation, et puis il y a eu plein d'explorations de fait là-bas. Il y avait absolument rien qui permettait de l'expliquer, donc ils avaient conclu à convulsion isolée, sans savoir pour quelle raison. Donc j'ai vu son dossier le lendemain, ou le surlendemain, et ça m'a interpellé le contexte, connaissant bien la région. Je me suis dit, tiens, c'est au même endroit où le jogger a été retrouvé il y a 10 ans. C'est quand même curieux. C'est quelqu'un qui est en très bon état général, qui n'avait aucun antécédent. 52 ou 53 ans, il avait en ce temps-là. Et donc, aucune raison de faire une crise d'épilepsie, surtout si on ne trouve rien au scanner, si on ne trouve rien qui permet d'expliquer ça. Donc, à ce moment-là, j'ai envoyé un courrier à la DAS, en ce temps-là, c'était la DAS qui s'occupait des problèmes sanitaires, en leur disant que, comme j'avais eu un antécédent 10 ans auparavant, il fallait mettre les deux choses en relation et que probablement il était possible qu'il ait eu une intoxication liée aux émanations d'algues vertes. Et au bout de plusieurs mois, à force de demander, j'ai fini par avoir une réponse du centre antipoison de Rennes qui disait que, comme il n'y avait jamais eu de cas de décrit jusqu'à ce jour, pas de raison d'évoquer l'hypothèse des gaz émis par les algues vertes. Mais par contre, là, déjà, autant 10 ans auparavant, j'avais une suspicion, là, j'ai eu une conviction. J'avais une conviction que c'était ça, une forte conviction. Et je me suis dit, je crois même que je l'avais mis dans mon courrier, qu'il ne fallait pas attendre qu'il y ait d'autres accidents avec des gamins, éventuellement, sur les plages, pour agir, et puis pour au moins faire des études, voir si effectivement les algues vertes pouvaient dégager de l'hydrogène sulfuré et étaient toxiques quand elles s'amoncelaient sur des épaisseurs assez importantes. Et donc, bon, ça en est resté là, quoi. Là, je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre à un éventuel autre pépin. C'est triste à dire, mais c'est un petit peu comme ça. Durant l'été 2008, donc là on est 9 ans après l'accident de M. Briffaut,
20 ans après la mort du jogger.
Du jogger, ouais, 20 ans. Pendant mes vacances, je vois qu'il y a une jeune femme qui se promenait avec ses deux chiens sur la plage d'Ilion dans les Côtes d'Armor, qui est aussi infestée par les algues vertes. C'est la deuxième zone la plus infestée dans la région. Et qui se promenait avec ses deux chiens, 13 et 20, plus de 20 kilos, je crois, le deuxième. Ils ont dû aller sur un amas d'algues vertes, et puis ils les ont retrouvés morts tous les deux. Statistiquement, quand vous avez des décès collectifs comme ça, sur un même endroit, c'est l'hypothèse toxique qui est la première à évaluer. On ne peut pas penser que les deux chiens aient fait un infarctus en même temps qu'ils aient fait... Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est forcément une hypothèse toxique. Et l'article de presse relatait qu'effectivement, elle avait évoqué l'hypothèse, que ça puisse être lié à ça. Et la réponse des autorités, y compris de la DAS, qui avait fait un article dans la presse, disait que à ce jour, il n'y avait jamais eu de cas décrit de décès liés aux algues vertes. Donc, or, 10 ans auparavant, je les alertais. C'est le service auquel j'avais expédié ce courrier 10 ans auparavant qui se permet de mettre par voie de presse qu'il n'y a pas de réel danger pour l'homme. C'est assez édifiant. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, je pense.
Le 13 août 2008, dans le Télégramme, la préfecture de Saint-Brieuc déclare « La seule étude existante sur les plages des Côtes d'Armor a été réalisée en 2006 et les valeurs qui ont été relevées sont très inférieures à celles pouvant provoquer le décès d'un chien. » Mais en réalité, c'était faux. J'ai découvert dans les archives de la DAS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que les autorités avaient connaissance du danger potentiellement mortel des algues vertes depuis un an déjà. En effet, lors de mesures effectuées par Airbraze pour les comptes de la DAS en 2007, les taux d'hydrogène sulfuré étaient tels que les appareils de mesure étaient saturés. La DAS avait aussitôt informé la préfecture du danger mortel qui existait sur les plages bretonnes. Mais en 2008, rien encore n'avait vraiment été fait pour prévenir ce danger.
France Culture, les pieds sur terre.
À peine un an plus tard, c'est au tour de Vincent Petit, le cavalier, par ailleurs vétérinaire, d'atterrir aux urgences de Lannion dans le service du docteur Pierre-Philippe. Son cheval est mort, lui a perdu connaissance, et tout cela exactement au même endroit que celui où ont été retrouvés le jogger en 1989 et le ramasseur d'algues en 1999.
L'accident tel qu'il s'est produit, c'était une évidence. Là maintenant, autant j'avais des suspicions en 89, autant j'avais des convictions en 99. En 2009, j'ai eu une certitude. Là, c'était une certitude.
L'urgentiste lui révèle alors son hypothèse à propos des algues vertes en putréfaction et lui propose de faire autopsier son cheval.
C'était la seule façon de pouvoir obtenir enfin la preuve. Donc, j'ai eu des oppositions, mais alors... Pire qu'imaginable, les oppositions des services vétérinaires qui ne voulaient pas, les services d'écarissage qui... Enfin, j'avais pas le droit de demander ça, il fallait que ça soit une demande des autorités sanitaires. Enfin, ça a été vraiment une plaie toute cette matinée-là pour essayer de me battre pour obtenir cette autopsie.
Mon cheval, il a été extrait de la vasière et... On a essayé de le faire équarrir pendant que j'étais à l'hôpital. Sa dépouille a été stockée dans un champ dans la campagne avoisinante, sous une bâche. Et quand le lendemain, lorsque je suis sorti, je reviens à Saint-Michel-en-Grève, je demande où est mon cheval, la dépouille de mon cheval, parce qu'on allait demander à faire une autopsie. Et là, j'apprends qu'on attend l'écarissage pour le faire brûler, hein, puisque l'écarissage, c'est brûler une dépouille. Ce qui tombait très mal, puisque c'était une pièce à conviction. Et on a réussi à récupérer la dépouille avant que le camion d'écarissage ne passe et changer la destination, non pas vers le centre d'écarissage, mais vers un vétérinaire pour qu'il réalise l'autopsie.
Mais qui avait commandé l'écarissage ?
C'est la mairie. Et oui, il a fallu contrer un empressement certain de vouloir équarrir à tout prix la dépouille pendant que je n'étais pas là. Ce serait revenu à faire disparaître l'épreuve.
ma seule façon de pouvoir avoir une quelconque pression pour pouvoir obtenir ces examens-là, c'est de dire, cette fois-ci, je ne m'écrase pas, et cette fois-ci, je communique à tous les médias. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, il y a dû y avoir des pressions de la préfecture et de la DAS sur l'administration de l'hôpital. Donc, dès le matin même, j'ai eu des appels téléphoniques de beaucoup de médias. À ce moment-là, donc, la direction de l'hôpital, par l'intermédiaire du directeur adjoint, est venue me dire « Attention, Monsieur Philippe, on a des coups de fil de la DAS et de la préfecture où vous êtes sur la ligne rouge, il ne faut pas que vous la franchissiez. » Enfin bon, on m'a bien mis en garde. Hein. Et là, j'ai dit « De toute façon, là, je sais ce que j'affirme et là, j'irai jusqu'au bout. Maintenant, vous ne m'arrêterez pas. » J'ai eu même des coups de fil assez agressifs par la suite de la direction des services vétérinaires en disant que j'étais en train d'affoler les foules et que j'étais en train d'ameuter tout le monde sur un risque qui n'était pas avéré. Enfin, ça a été assez chaud, assez chaud. Je leur avais dit, écoutez, je peux vous assurer que cette fois-ci, si vous mettez un frein aux analyses qu'on va faire, là, vous allez avoir toutes les associations environnementales sur le dos et elles pourront prouver que vous avez obstrué une avancée scientifique, hein, tout simplement.
Et à partir de là, tout a été à notre charge, c'est-à-dire que m'a été signifié que c'était un accident privé, qui ne regardait que moi et que je me débrouillais. Alors qu'il est, j'ai payé tous les frais d'autopsie, d'analyse biochimique avec un certain coût quand même pour doser ce gaz qui a donc été retrouvé à plus de 1 mg par kilo de matière, ce qui est simplement une bombe atomique quasiment dans le poumon. Et donc qui a pu me montrer que c'était bien la cause de l'intoxication de mon cheval et de son décès. Mais si le cheval est bien mort intoxiqué par les algues vertes, ça on a réussi à le démontrer et à le faire reconnaître. Pour l'heure, les tribunaux considèrent que moi je n'ai subi qu'un choc émotionnel alors que j'ai été intoxiqué de la même manière. C'est ce qu'on appelle assez simplement un cas d'intoxication collective, c'est ce qu'on essaye de faire reconnaître difficilement. Les autorités étaient conscientes du danger depuis plusieurs mois, voire années, avant la survenue de mon accident. Donc c'est totalement anormal qu'en France, on puisse laisser perdurer un tel danger jusqu'à ce qu'il se réalise.
Le cheval de Vincent Petit a été reconnu comme victime de l'hydrogène sulfuré. Mais les palais de justice tardent à reconnaître les morts humaines des algues vertes. Et en Bretagne, la plupart des gens à qui j'en parle autour de moi semblent ignorer que la preuve de la toxicité mortelle des algues vertes a été rapportée. Et continuent de considérer cette information comme une rumeur, à commencer par le patron de la petite entreprise de ramassage d'algues vertes qui a sauvé la vie à Vincent Petit. Selon lui, le cheval est mort en s'étouffant dans la vase et le cavalier a sans doute été étourdi par un coup de sabot.
Honnêtement, pour moi, on en fait trop aujourd'hui. On en a fait trop. On a parlé d'algues vertueuses, il ne faut pas pousser quand même. Il y a beaucoup de choses aussi dangereuses, voire plus dangereuses que les algues vertes et on laisse faire, quoi. Par exemple, tous les ans, il y a combien de morts dans les avalanches ou en montagne? Et puis, les gens continuent d'aller à la montagne quand même, quoi. Dans n'importe quel milieu naturel, à mon avis, faut savoir qu'il y a un risque, quoi. Une balade dans bord de mer, toujours le risque d'être pris avec une lame de fond, une balade sur des rochers, de glisser et de tomber, une balade en montagne, de prendre une crevasse. Suite à l'histoire du cheval, on a pris des précautions quelquefois démesurées, quoi. Je me souviens, les premières années après le 2010, on nous demandait de sécuriser les zones de ramassage avec des plots, avec des barrières, de porter des masques en permanence. C'était beaucoup trop par rapport, à mon avis, toujours. Ça donnait une ambiance vraiment de Tchernobyl, là, quoi. Pour moi, si vraiment c'était dangereux, on ne verrait pas tout le monde qu'on a sur la plage tous les jours, là.
Donc pour vous, aujourd'hui, c'est plus possible qu'il y ait des morts à cause des algues?
À mon avis, non.
Il n'y en a peut-être même pas eu, en fait.
Pour moi, non. Pour moi, il n'y en a jamais eu. C'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne publicité à toutes nos plages bretonnes, là, depuis quelques années, quoi. C'est assez récurrent, tous les ans, au mois de mai, juin, quand les premiers échouages d'algues arrivent, évidemment, de suite, on en parle dans les médias, quoi. Et bon, c'est déplorable, ça, quand même, quoi. Enfin, à mon avis, toujours. Nous, ici, on a 5 salariés qui n'auraient pas été là s'il n'y avait pas eu les algues vertes, hein. Pour nous, aujourd'hui, c'est vrai que quand je partirai à la retraite, lors des bilans, on pourra dire que les algues vertes seront recontribuer à l'entreprise, hein, ça c'est clair. D'autant plus que l'année dernière, par exemple, on n'en a pratiquement pas eu d'algues vertes. Il n'y a pas eu d'échouage pratiquement l'an passé. Et ben, ça nous a mis en difficulté financière, hein, pendant une année. Ouais. On a frôlé la catastrophe, même si je peux dire. Ouais.
Mais alors pourquoi, si ce n'est pas si dangereux, pourquoi vous les ramassez?
Alors là, pourquoi? Oui, c'est vrai. Ben, pour la vue et puis pour le limiter les risques aussi. Quoi. C'est vrai que sur les algues, même sur une fine épaisseur, il y a toujours le risque de glisser ou de tomber. Quoi.
Mon rôle, c'est pas de faire peur. Hein. Moi, mon rôle, c'est pas de faire peur, mais c'est d'alerter. Pour les chiens de Aurore-Bléron, si je ne m'étais pas manifesté à ce moment-là et qu'il y ait eu un décès d'un gamin après, un gamin ou un adulte sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, mais la responsabilité morale que je peux avoir, quand vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui peut se produire et que vous alertez pas, on peut pas vivre avec ça, c'est pas possible. J'ose espérer que maintenant les gens auront été assez alertés pour éviter que les enfants aillent courir sur les amas d'algues. Il faut espérer. Je reste persuadé quand même que il n'y a pas que les cas que j'ai vus, c'est pas possible, c'est pas possible. Dans notre secteur ici, il y a dû y avoir d'autres cas, peut-être pas aussi dramatiques, mais au moins de gens qui ont fait des malaises, qui ont fait des symptômes divers et variés. J'ai peine à croire qu'effectivement, on ait répertorié tous les cas.
À la préfecture et à l'Agence régionale de santé, ex-DAS, on dit ne pas vouloir s'exprimer sur ces affaires. Or, derrière l'histoire du cavalier, Vincent Petit, se cache une autre histoire. Elle, totalement méconnue, et qui a eu lieu le même été, près de Binic. C'est celle de Thierry Morfoys, un ouvrier retrouvé au pied de son camion d'algues vertes. Je vous raconterai cette étrange affaire dans le prochain épisode.
Baby, can't you see, I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning.
C'était le premier volet d'une enquête d'Inès Leroux réalisée par Eric Lancien sur les algues vertes et diffusée pour la première fois en mai 2016. Sachez que depuis la première diffusion donc de cet épisode, un jogger de 50 ans a été retrouvé mort dans l'estuaire de Gouénan à Ilion, dans les Côtes d'Armor, un estuaire réputé pour être dangereux à cause des algues vertes s'accumulant et putréfiant. Pierre Philippe, qui est toujours médecin urgentiste à l'hôpital de Lannion, et 8 autres médecins ont déclaré publiquement que cette mort était, selon eux, liée à l'hydrogène sulfuré émanant des algues vertes. Le jogger a été enterré sans autre analyse et l'affaire, pour ainsi dire, étouffée. Quant au procès de Vincent Petit, le cavalier, il s'enlise, si on peut dire. Merci pour cette émission à Eric Lancien et à Cécile Lafont, ainsi qu'à Alice Sternberg, Julien Vaillant, Yves-Marie Lelay, André Olivreau, Vincent Hénaud, Corinne Lepage et Anne-Sophie Lepicard. La production des Pieds sur Terre est assurée par Jeanne Delecroix et Camille Richir, et notre stagiaire, c'est Zoé-Marie Roulier.